matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1. Notez ce rendez-vous de 9h à 9h30, un débat autour de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on l'a un peu oublié dans cette crise du coronavirus? Il y a la crise sanitaire d'un côté, bien sûr. Il y a la crise économique qui se profile, et ça, c'est un enjeu majeur. Est-ce que dans ces crises, il y a de la place pour la crise climatique? 3921, le hashtag Radio Ouverte. Est-ce qu'il faut, par exemple, relocaliser, conditionner les aides de l'État à des engagements vertueux en termes d'écologie? Nous serons avec Cécile Duflo, ancienne patronne des Verts, vous vous en souvenez bien sûr, aujourd'hui à la tête de l'ONG Oxfam. Vous pouvez lui poser des questions, témoigner l'écologie gagnante ou perdante de la crise du coronavirus. C'est le débat tout à l'heure. Vous n'hésitez pas, 3921 et le hashtag Radio Ouverte. Mais pour l'heure, on va parler de votre caddie, de vos placards, de vos habitudes de consommation avec l'économiste Philippe Moatti. Bonjour Philippe Moatti.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur également de l'Observatoire Société et Consommation, l'Obsoco, professeur à l'Université de Paris. Nous parlons de la consommation des Français. Il y a d'abord la consommation des Français pendant le confinement. Est-ce qu'elle a beaucoup changé? Oui, en tout cas dans les volumes, on a beaucoup moins acheté. Je pose cette question à nos auditeurs. En achetant moins, est-ce que pour autant vous avez manqué? Mais ça, c'est une réalité. On a complètement changé nos habitudes de consommation ces 6-7 dernières semaines.
Clairement, mais sous la contrainte. Donc ça veut dire qu'on a vécu une période exceptionnelle. Pardon. Il restera à savoir ce qui va rester de tout ça dans l'avenir. Là, c'est complètement atypique ce qu'on a vécu. Hein. L'INSEE mesure un déficit de consommation de l'ordre de 35%. On a accumulé de l'épargne de 50 ou 60 milliards d'euros seraient sur nos comptes d'épargne parce qu'on n'a pas pu tout simplement les dépenser. Du coup, notre consommation s'est complètement recentrée sur un tout petit nombre de postes budgétaires. L'alimentaire, bien évidemment, raison de 2 repas par jour, vous imaginez que ça fait augmenter la dépense. Et puis, il a fallu occuper notre temps, donc on a beaucoup utilisé le numérique. Donc là aussi, une déformation de notre structure de dépense qui est spectaculaire. Les circuits de distribution qu'on a fréquentés, on est allé au plus près, évidemment dans l'alimentaire uniquement, puisque le reste était fermé, on est allé au plus près, on a fréquenté les commerces de proximité, on a découvert pour certains d'entre nous le e-commerce alimentaire, en drive ou avec livraison à domicile, on a fréquenté assidûment des réseaux de directs producteurs, quelquefois qui se sont improvisés durant la crise, et on a plutôt délaissé les hypermarchés. Voilà, donc vraiment des changements radicaux, mais... C'est une réponse à des circonstances exceptionnelles, bien évidemment, ça ne présume en rien des changements structurels qu'on observera dans les comportements de consommation dans les prochains mois.
Alors, Philippe Moatti, je voudrais vous faire écouter une voix, celle de Dominique Schellcher, qui est le PDG de Système U. Il était hier soir l'invité de l'interview Echo d'Emmanuel Duteil. Écoutez ce qu'il dit sur les réflexions de Système U à l'avenir pour les produits qu'il propose.
Ils sont plus nombreux à la maison, il faut cuisiner davantage et donc les quantités ont été plus grandes. Et ça, c'est probablement une tendance qui va perdurer quelques temps. Il y a une opération régulière chez nous qui s'appelle l'opération gros volume. On va renforcer nos propositions sur cette opération commerciale-là avec des gros volumes plus importants encore et peut-être même des produits qui finalement seront vendus régulièrement en rayon en gros volume, ce qui n'était pas toujours le cas avant.
C'est sûr qu'on a acheté de la farine en quantité à tous faire des gâteaux à la maison, oui. Les œufs, alors évidemment le papier toilette. Vous entendez que du coup les industriels et les distributeurs réfléchissent, par exemple, du nouveau packaging. Peut-être que la farine ne sera plus vendue en sac d'un kilo, mais en sac de 5 kilos. Ça, c'est un changement.
C'est un changement. On aura des problèmes de stockage en ville. Mais enfin, c'est un détail. Effectivement, parmi les choses qui risquent de rester, en tout cas, ce que beaucoup de Français nous disent vouloir conserver, c'est se faire soi-même. Que souvent on a découvert ou intensifié durant cette période de crise. Alors dans le faire soi-même, il y a évidemment la cuisine, on vient d'en parler. Ça a été vraiment une occupation forte, hein, la cuisine, et on a pris plaisir à préparer des repas, à élaborer des recettes, on est monté en compétences, on a beaucoup échangé sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Hein. Donc la cuisine évidemment, le bricolage, le jardinage, travailler avec ses doigts en fait, faire des choses, ça peut être de la couture d'ailleurs. On a appris à coudre des masques. Hein. Et tout ça, dans nos enquêtes, en tout cas que nous réalisons à l'Obsoco, on voit que c'est des choses que les Français ont envie de continuer à faire après. Sauf qu'évidemment, après, on va retrouver les contraintes. Alors, il y aura des contraintes temporelles, quand on va retrouver ce que j'espère prochainement, quand même, notre rythme de vie normal, eh bien, on va renouer avec les mobilités pendulaires, avec, même si on fait un peu plus de télétravail, on sera quand même obligé de s'expatrier du domicile. On va retrouver des contraintes de pouvoir d'achat. Donc, vous savez, les comportements, c'est toujours un compromis entre un idéal, ce qu'on souhaite faire, et puis ce qu'on peut faire, étant donné le jeu des contraintes. Donc là, on a vécu une transformation radicale sociale du jeu des contraintes, on va revenir progressivement à la normale. Restera à observer comment cette crise a changé nos idéaux et dans quelle mesure cette envie d'autre chose nous amènera à changer nos comportements.
Isabelle est en ligne avec nous dans les Yvelines. Bonjour Isabelle.
Bonjour Mathieu. Bonjour.
Vous nous avez appelé tôt ce matin, Isabelle, en précisant le confinement a changé beaucoup de choses sur ma façon de consommer. Qu'est-ce que ça a changé ?
On est revenu à l'essentiel, hein. On est revenu à des choses très basiques, on a beaucoup moins acheté, on n'est plus sur les achats compulsifs de vêtements, les achats promotion, la déco, les chaussures, enfin tout ça, ça a disparu du paysage et on vit très très bien sans tout ça. On est revenu aussi à des achats très français, où on a vraiment porté une attention particulière à acheter des produits français, producteurs, éleveurs. C'était une conscience qu'on avait déjà, mais qui s'est très nettement accentuée, avec en particulier tous les produits, c'est qu'ils patrons ou juste les Vendéens. On a beaucoup échangé entre nous dans la famille autour du fait qu'on souhaitait peut-être très, très très nettement ralentir sur les produits made in China sur Amazon. On a aussi pris conscience que tous ces produits industriels ultra emballés, là il y avait vraiment il y a un non-sens absolu. On pollue notre planète, on fait un mal de chien à nos océans. Et on demeure néanmoins quand même avec un vrai point d'interrogation parce que derrière ce sont des emplois. Il ne faut pas non plus se voiler la face, hein, autour de pas mal de biens de consommation. Il y a des emplois, il y a des aides à des populations qui, quand elles cousent au Bangladesh ou en Inde, font vivre des familles. Donc il y a à la fois une grosse prise de conscience d'avoir envie et d'avoir consommé très différemment, et en même temps de se dire attention, il y a aussi un enjeu global, économique pour la planète.
En tout cas, la réalité, cela dit, c'est qu'on a tous eu le temps aussi de réfléchir à cette consommation et d'en parler en famille. Comme vous le disiez, Isabelle, Philippe Moati, est-ce que ces changements constatés chez Isabelle, alors vous ne pourrez peut-être pas le dire pour Isabelle à Roquencourt précisément, mais est-ce que ces changements seront durables ? Vous disiez, on va rentrer dans un quotidien, on va reprendre des habitudes.
Écoutez, il y avait déjà une dynamique avant cette crise qui faisait monter la posture critique de la population à l'égard de la consommation. De plus en plus de Français... excusez-moi.
Je vous laisse boire un verre d'eau, il n'y a pas de problème, Philippe Moati.
Non, ça va passer. De plus en plus de Français commençaient à nous dire, dans nos enquêtes, vouloir consommer moins mais mieux, notamment en ayant pris conscience de l'impact environnemental de la consommation, et plus subtil, une interrogation sur est-ce que ça me rend vraiment heureux ? Qu'est-ce que ça m'apporte de consommer comme ça ? Et je crois que la période qu'on vient de vivre, où on a déconsommé, mais encore une fois sous contrainte, a alimenté cette réflexion. Ben finalement, je consomme beaucoup moins. Est-ce que ça me manque vraiment ? Est-ce que je m'en sors moins bien ? Est-ce que je suis plus malheureux ? Ben non, je crois que l'intervention qu'on vient d'avoir de votre auditrice résume parfaitement la situation, quoi. Non seulement on se rend compte que on n'a pas besoin de tout ça, et dans une période de crise comme celle qu'on vient de vivre, on prend davantage conscience encore, alors qu'on était déjà alarmé sur le sujet, hein, des conséquences collectives de cette consommation pour la planète, pour les entreprises, sur le plan sociétal, etc. Donc l'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, ce qui était déjà latent dans la période d'avant-crise va s'intensifier après crise, avec une poussée d'une part importante de la population vers une volonté de consommer différemment.
Merci Isabelle.
Ceci dit, n'oublions pas qu'on va buter sur la contrainte de pouvoir d'achat.
Merci Isabelle. Évidemment, parce que produire en France, par exemple, eh bien, c'est plus cher que d'importer de Chine encore aujourd'hui. Isabelle, merci beaucoup de votre appel au 3921. Marie est en ligne avec nous. Bonjour Marie.
Oui, bonjour messieurs.
Je vois que vous êtes encore en télétravail, vous. Hein.
Oui, c'est une chance d'ailleurs.
Et vous disiez, c'est ce qui explique que vous n'allez plus en ville.
Ben, je travaillais en centre-ville. Donc entre midi et deux, je faisais du lèche-vitrine, en fait. Et c'est vrai que je faisais des achats qui étaient compulsifs, comme disait Isabelle. Et finalement, toute cette période d'introspection qu'on a eue chez nous, je me suis rendu compte qu'il ne me servait à rien, ces achats-là. Je me suis rendu compte aussi sur mon compte en banque qu'il n'était plus là. Et en fait, je suis revenue à des essentiels, à des basiques. J'ai pris le temps de cuisiner aussi. Bon, j'ai toujours aimé cuisiner, mais là, mieux. De façon durable. Et c'est vrai que mes habitudes ont changé. Et grâce au télétravail, en fait, j'espère vraiment garder cette mentalité que j'ai adoptée, parce que je suis presque fière de moi, en fait, de consommer comme ça maintenant, de façon locale, Bon, à part le coiffeur où vraiment je vais pas pouvoir m'en passer parce que là, enfin voilà, je vais être obligée d'aller me déplacer chez un commerçant et c'est mon coiffeur, donc voilà. Mais c'est vrai que pour le reste, plus de grande surface, j'ai une aversion, c'est terrible, j'ai une aversion terrible.
C'est nouveau, je veux dire Marie, c'est le confinement qui a déclenché ça, c'est quoi, c'est une prise de conscience ou c'est déjà quelque chose qui était latent chez vous et vous faisiez comme ça parce qu'on peut pas faire autrement?
En fait, c'était latent. Je consommais déjà local au niveau de mes légumes parce que je prends chez une primeur tout près de chez moi toutes les semaines. Mais c'était vraiment sur quelque chose de ponctuel. Alors,
je me permets de vous couper, Marie, parce que d'un autre côté, les témoignages d'Isabelle et de Marie sont passionnants et on est en plein dans le sujet du changement de consommation. Mais Philippe Moati, il ne faudrait pas non plus oublier une autre partie des Français qu'on a peut-être pu voir faire la queue devant Zara ou se masser dans des drives McDo. Enfin, je veux dire, il y a aussi une satisfaction de retrouver les commerces que l'on connaissait avant.
Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'il faut vraiment éviter d'avoir des visions un peu unilatérales, homogènes, des dynamiques sociétales, notamment en matière de consommation. On vit dans une société plurielle, avec une très 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 forte hétérogénéité des habitants sur le plan de leurs idéaux et de leurs contraintes. Et donc effectivement, là, je crois que les deux auditrices qui viennent de prendre la parole sont très révélatrices d'un segment de population qui a augmenté, donc qui a vu ses troupes augmenter au cours des dernières années, et probablement grâce à la crise, ils vont être encore plus nombreux.
Il y a aussi, il faut le souligner,
sans doute minoritaire.
Il y a aussi eu, ces dernières semaines, un autre regard posé sur le personnel qui travaillait, les personnels de grande distribution, les collaborateurs dans l'agriculture, dans tous les services alimentaires, les services essentiels. Ces gens-là, on les regarde plus de la même manière après cette crise du Covid.
Pour l'instant, non.
Je vous sens sceptique.
Espérons que ça dure.
Je vous sens un peu sceptique.
Quelque part dans... Non, pas sceptique, on verra, mais si vous voulez, là, on est dans une sorte d'état de grâce, on est un peu suspendu dans un espace-temps complètement extraordinaire. Il faudra voir ce qui va en rester plus tard, mais je pense quand même que, à titre individuel et collectif, on a quand même une certaine tendance à revenir au point initial. Hein. Une fois qu'on subit un choc, on revient un petit peu sur le point initial, les bifurcations sont assez rares. Voilà. Donc là-dessus, on verra, je le souhaite évidemment, qu'il y ait une reconnaissance durable de l'effort qui a été fourni par ce personnel de première ligne. Je ne suis pas sûr que ça dure et ça risque d'alimenter d'ailleurs une sorte de tension sociale parce que on le voit déjà, l'impact économique de cette crise va être inégalement distribué, va plutôt toucher le bas de l'échelle sociale. Donc on risque d'avoir une population qui va être touchée fortement par les conséquences économiques de cette crise, qui est plutôt un peu plus consumériste que la moyenne. Et qui a été un peu en état de grâce pour une partie d'entre elles, grâce justement à cette valorisation des gens en première ligne. Donc je crains que dans les prochains mois, les choses revenant un peu à la normale et la réalité économique rattrapant l'état de grâce sociologique en quelque sorte, je crains effectivement qu'il y ait une fraction de la population qui se sente particulièrement frustrée de la manière dont les choses vont évoluer et que ça fasse monter dans le pays une vague de mécontentement social.
C'était passionnant. Merci beaucoup Philippe Moati. Merci mille fois d'avoir répondu à nos auditrices, en l'occurrence, puisque Isabelle et Marie étaient en ligne avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation, professeur à l'Université de Paris. Et Marie-Isabelle, merci d'avoir appelé le 3921 ce matin pour témoigner. C'est ainsi que ça se passe sur la radio ouverte. Il est 8h44.